en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci de votre présentation. Je remercie le président de l'Académie des Beaux-Arts, M. Patrick de Carolis, le secrétaire perpétuel que l'on vient d'entendre, M. Laurent Petit-Virard, et puis les membres de l'Académie, de m'avoir invité à présenter devant vous cette communication. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y a, ça a été dit, plusieurs années, j'avais eu le plaisir de siéger au conseil artistique de la Casa de Velázquez sous la présidence de M. Arnaud d'Autrive. Et j'ai le souvenir de séances qui, pour le dire rapidement, étaient tout sauf monotones. Et c'est avec tristesse que j'ai appris son décès début janvier, alors que, préparant cette intervention, j'avais encore sous les yeux l'invitation qu'il m'avait envoyée déjà en juillet 2016. J'ouvre des guillemets. Dans son histoire bicentenaire, depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, l'esthétique s'est révélée comme un insuccès brillant et plein de résultats. Ces mots sont d'Étienne Souriau, qui était titulaire dans les années 50, 1950, de la chaire d'esthétique et sciences de l'art à la Sorbonne, successeur de Charles Lalot, et également votre confrère à l'Académie des sciences morales et politiques. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur dans les années 1960. Je pense qu'il terminait d'ailleurs son enseignement à la Sorbonne à l'époque. Et je suis presque sûr que son oxymore malicieux sur l'esthétique, un succès brillant, plein de résultats, m'a inspiré l'intitulé de cette intervention « Bonheur et malheur de l'esthétique ». Charles Baudelaire, on le sait, affectionnait le terme esthétique lorsqu'il parlait de bric-à-brac ou de curiosité. En revanche, il détestait les professeurs d'esthétique. Autrement dit, il aimait bien l'adjectif esthétique, mais il fustigeait vertement les professionnels de cette science. Je pense d'ailleurs que s'il avait siégé de nos jours au sein de l'Académie, pure fiction évidemment, on peut penser qu'il serait opposé à la présence en ce lieu d'un professeur d'esthétique, une engeance qu'il qualifiait de tyran mandarin et d'impie tenté de se substituer à Dieu, et donc je ne serai pas là devant vous ce soir. Ce petit détour par Baudelaire, c'est donc pour l'ancien professeur d'esthétique que je suis, peut-être un impie, mais pas un tyran tenté de se substituer à Dieu, l'une des façons de vous dire, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, combien je suis sensible à l'honneur que vous me faites en m'accueillant ici. L'opprobre jeté par le poète Baudelaire aux représentants de l'esthétique, en plein milieu du XIXe siècle, n'est que l'un des malheurs qui affectent, depuis plus de 250 ans, cette étrange discipline philosophique, encore et toujours mal définie, source parfois, comme chacun sait, de quiproquos. Il n'est pas évident, même encore maintenant, de dire, dans certaines circonstances, je suis professeur d'esthétique, sans que, immédiatement, on vous convie à faire une conférence sur la chirurgie du même nom et sur les liftings et autres soins de beauté. Et je parle en tant que j'ai expérimenté cette chose. J'ai parlé de malheur. On pourrait m'objecter que ce malheur n'est qu'un demi-malheur, puisque l'irritation de Baudelaire atteste de fait l'existence de l'esthétique. Et reconnaître l'existence de l'esthétique est une chose que n'aurait pu faire, par exemple, et pour cause, l'Académie royale de peinture et de sculpture avant 1750. Puisque le vocable n'existait pas, ni d'ailleurs pour ce qui concerne la France, avant 1753, c'est-à-dire avant qu'un homme de lettres berlinois, au nom français Louis de Beausobre, en un seul mot, le bien-nommé, n'intitule esthétique en français un paragraphe de ses dissertations philosophiques. Ouvrage très peu lu, ouvrage entièrement rédigé en français, qui rayonne dans ce français, je dirais, qui rayonne dans toute l'Europe à l'époque, et il y a une époque où cette Europe ne baissait pas encore pavillon devant la langue de Shakespeare, plus exactement devant la langue des traders de la City ou de Wall Street. J'ai dit à l'instant demi-malheur, il y a donc place pour l'autre moitié, c'est-à-dire pour le bonheur. Car l'aventure terminologique et sémantique de l'esthétique est une longue suite de bonheur et de malheur mélangés et alternés qui se prolongent jusqu'à nos jours. Comme il n'est pas question de vous infliger la longue liste des offenses qu'elle a subies depuis sa naissance, rappelons seulement quel coup du sort a dû vaincre cette science nommée bizarrement esthétique afin d'échapper à son extinction pure et simple. Pourquoi bizarrement ? D'abord parce que ce néologisme n'aurait jamais dû exister. Ceux qui l'inaugurent sont les premiers à vouloir s'en débarrasser. Louis de Beausobre, dont je viens de parler, lui-même, en dépit de son élégant patronyme, puis l'écrivain romantique et fantasque Jean-Paul, Friedrich Richter, qui prend pourtant le temps de rédiger un volumineux cours préparatoire d'esthétique, et même le traducteur de Hegel, Charles Benard, traducteur courageux et valeureux, qui se contente, je le cite, de tolérer le néologisme en arguant que le mot est consacré par l'usage. On admire évidemment la pertinence de l'argument, pertinence scientifique. Il est là, bon, on le prend. Hegel dira la même chose, je vais le signaler tout à l'heure. Bizarrement aussi parce que ce vocable aux origines douteuses est improbable. Mais direz-vous, pourquoi douteuse ? Le point de départ semble légitime. Tous les philosophes, un peu sérieux, et les hellénistes connaissent la distinction entre les aestheta, les choses sensibles, et les noeta, les choses intelligibles. Donc, lorsque Alexander Baumgarten, professeur de logique à l'université de Francfort-sur-Oder, décide en 1750 de lutter paradoxalement contre la tyrannie de la logique, c'est un paradoxe, il l'enseigne la logique, mais il veut lutter contre, c'est-à-dire contre la tyrannie des noëtas, contre la tyrannie de l'intellect, eh bien, c'est à bon droit qu'il oppose les fameuses esthétas, la sensibilité, tout ce qui relève, en tous les cas, des faits sensibles. Et alors, il fait une opération, je ne vais pas vous infliger ça trop longtemps, mais il est obligé d'en passer un petit peu par la linguistique. Baumgarten a latinisé l'adjectif grec aestheticos, qui vient d'aestheta, en esthetica, et puis il l'a germanisé en esthétique. Et c'est un processus de néologisation qui sonne scientifique en allemand, comme en français. Vous mettez « ic » à la fin, ça fait sérieux. Donc le tour est joué. L'esthétique est censée devenir une science, celle de la sensibilité, comme la logique est une science de la connaissance. Science, oui, mais quand même, Baumgarten se dit, si je dis dans mon université, qui est une université où il y a des gens sérieux qui font de la logique et des mathématiques, que la sensibilité, c'est une science, ça ne va pas aller très bien. Alors, il la baptise quand même de science inférieure. On n'est jamais trop prudent, surtout vis-à-vis des collègues rationalistes et logiciens. Alors, on pourrait dire que dans le berceau de l'Aufklärung, des Lumières, naissent, pour ainsi dire, côte à côte, en un intervalle de temps extrêmement court, 1750-1760, la critique d'art comme genre littéraire, grâce à Diderot, qui commence ses salons en 1759, l'histoire de l'art, grâce à Johann Joachim Winckelmann, qui sort sa fameuse histoire de l'art en 1757, si mes souvenirs sont bons, et puis l'esthétique, donc une science de la sensibilité, une science sœur, pourrait-on dire, des deux autres. On a esthétique, critique d'art, histoire de l'art. En un temps, encore une fois, très court. Une belle triple alliance, pourrait-on dire. Tout semble pour aller pour le meilleur, pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Car le terme esthétique est bâtard. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer? On recommence. Et Baumgarten le sait. Évidemment, il faut le lire attentivement. Il donne de sa fameuse science des définitions contradictoires. Art de la beauté du penser, science du sensible, alors art ou science, enfin bon, théorie des arts libéraux, bon, il n'est point question du tout de beaux-arts. En réalité, il a choisi ce mot à contre-cœur. Notre philosophe, il aurait bien voulu forger un mot à partir du latin sensio, percevoir par les sens ou percevoir par l'intelligence, sentir physiquement, mais aussi intellectuellement, moralement. Mais cette entreprise, à partir du latin, lui a paru très périlleuse sur le plan linguistique. Je pense qu'il a eu raison, d'ailleurs. Alors, il s'est rabattu sur ce terme, plutôt sur le verbe grec, aestonomai, j'y reviens pas. Et en fait, il a réalisé un coup de génie, mais involontaire. Bonheur de l'esthétique. Pourquoi involontaire? Puisque lui-même crée son néologisme. Eh bien, ce que Baumgarten ne connaît pas, ne pouvait pas connaître, et que certains linguistes méticuleux découvriront beaucoup plus tard, c'est la racine indo-européenne du grec, du mot grec que j'ai prononcé tout à l'heure, aestonomai. Et cette racine, je ne peux pas la prononcer, personne, ni vous, ni moi, parce qu'on n'a pas appris l'indo-européen, parce que le proto-indo-européen, c'est une langue inventée, évidemment, et comme chacun sait, c'est une pure hypothèse scientifique. On sait que cette racine, elle s'écrit A-I-E-I-N. Bon. Ce que savent les spécialistes, je me suis renseigné de très près, des langues sémitiques, notamment de l'arabe et de l'hébreu, c'est que ce verbe, A-I-E-I-N, que je me garde bien de prononcer ici devant vous, signifie percevoir, entendre, voir. Il serait alors l'origine lointaine du terme esthétique, c'est-à-dire qu'il traduit ce qu'on appelle en français l'amphibologie du sens ou des sens, c'est-à-dire une ambiguïté que nous connaissons fort bien dans le langage courant. On l'emploie sans même s'en rendre compte. J'ai des scrupules à le dire. Je vous entends, dit-on à quelqu'un, ça veut dire je vous comprends. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire, ça n'a rien à voir avec les yeux. Ça veut dire j'ai saisi ce que vous me racontez, pas besoin des yeux. Je touche, le sens tactile, ça veut dire je touche juste. Ça veut dire « je suis perspicace ». Bon, goûter, c'est aussi apprécier intellectuellement. Si je dis à mon voisin que je ne le sens pas, ça n'a rien à voir, évidemment, avec le sens olfactif. Donc, à son insu, Baumgarten retombe sur ses pieds. C'est-à-dire l'adage antique, maintes fois cité, on l'a chez Aristote, on l'a chez Platon, on le retrouve chez Emmanuel Kant. « Est eta kaino eta ». Pas de sensibilité sans pensée est là pour conforter Baumgarten, qui connaît fort bien à la fois le latin et le grec, d'ailleurs, dans son invention linguistique. Et de ce fait, cette invention acquiert une certaine légitimité. Donc tout va bien, à nouveau. L'horizon semble se dégager pour cette nouvelle science, celle de la sensibilité dans son rapport à la beauté, art de la beauté du penser. Victoire, dira-t-on, mais victoire en trompe-l'œil. Car la situation est extrêmement paradoxale. L'engouement que le vocable esthétique suscite en Europe est à la mesure de la méfiance et du dédain qu'il provoque. Les Français l'ignorent. Denis Diderot avait tenté de l'introduire dans l'encyclopédie, sans succès. Les Allemands eux-mêmes l'acceptent de mauvaise grâce, ou alors lui cherchent des équivalents. Certains, et pas des moindres, Allemands posent d'étranges questions. Les Allemands sont les seuls à se servir du mot esthétique. Pourquoi ne pas parler de critique du goût ? Ça, c'est Hegel qui dit cela. Et Schlegel, Auguste Wilhelm, pas Friedrich, son frère, déclare de façon, alors lui, carrément abrupte, il serait temps de supprimer cette expression maladroite qui, bien que l'on ait fréquemment reconnu son absurdité, ne cesse de réapparaître après Kant dans les écrits philosophiques de ses épigones. Et même Hegel fait preuve d'une suspicion, le terme est faible, vis-à-vis de l'allemand à esthétique. Il dit, à nous autres Allemands, ce terme est familier, les autres peuples l'ignorent, ce mot est impropre et superficiel. Et Hegel suggère que pourquoi les Français, de quoi se mêlent-ils, me direz-vous, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas, pourquoi les Français ne remontent-ils pas au grec kalos et ne forgent-ils pas le terme callistique ? Mais ils n'insistent pas. Il faut dire que professeur de callistique, ça aurait quand même une certaine allure. Hein, c'est pas, mais bon. Toujours est-il, dit, conclut-il, que esthétique est un mot insuffisant qui ne se préoccupe pas du beau comme création de l'art. Ça, c'est important. Et alors, le mieux, parce que vous savez, avec les philosophes en apparence les plus sérieux, on a des surprises, le mieux, conclut Hegel, puisque le mot est passé dans le langage courant, ben, c'est de l'adopter. Mais on ne l'utilisera pas. On parlera de philosophie du bel art. Bon, d'accord. Alors, je vous avouerai franchement que quand on rentre dans tous ces détails, il y a de quoi on perd, je dirais, son latin, son grec, son allemand, son français et son indo-européen. On le laisse où il est et on se dit, bon, on va faire autre chose que de l'esthétique. On va essayer de faire un peu de callistique. Ça va changer un petit peu. Pour le dire bref, ça va mal pour l'esthétique. Et rien d'étonnant à cela, je résume. Et puis on arrête là avec la linguistique. Si l'on résume bien, esthétique est une pure invention d'un logicien qui se pique de poésie et qui se vante, Baumgarten, d'écrire au moins un vers, V-E-R-S, hein, d'écrire un vers tous les matins avant d'aller faire son cours. Ce monsieur avait un problème quand même. Hein. Mais c'est bien. Enfin, moi, mon professeur de mathématiques, je suis sûr qu'il ne faisait pas un vers poétique avant de venir nous faire son cours. Irréprochable à la rigueur sur le plan linguistique en raison de son héritage indo-européen et grec, ce vocable est toutefois, il faut le dire, carrément d'une totale indétermination sémantique et il est, je dirais qu'il est nimbé d'un flou qui n'est pas artistique mais qui est bel et bien un flou épistémologique. D'où la question. À quoi peut donc bien servir une pseudo-science que personne ne parvient à définir rigoureusement, pas même le dictionnaire de l'Académie française, lorsqu'elle accueille le mot pour la première fois en 1832, et puis à nouveau, 3 ans plus tard. Alors, en 1832, très vite, on lit « Qui se rapporte au sentiment de beau ?» Sentiment particulier qui se rapporte au beau. Ah bon. Il signifie par extension qu'il y a un certain caractère de beauté. Il s'emploie aussi comme nom féminin pour désigner la science, qui a pour objet de rechercher et de déterminer les caractères du beau dans les productions de la nature ou de l'art. Ah, bon, on approche. En revanche, 1835, la définition est, comment dire, scindée en deux, elle n'est même pas scindée en deux, il n'y a plus que la dernière partie, 1835, science, qui a pour objet de rechercher, de déterminer les caractères du beau dans les productions de la nature et de l'art. c'est-à-dire tout le début qui se rapporte au sentiment de beau, sentiment particulier qui... On n'en parle plus. Alors on comprend mieux les vitupérations de Baudelaire. À cette époque, Baudelaire commence la rédaction des curiosités esthétiques. Et il se révèle comme un talentueux, le terme est faible, critique d'art. Il a beau fustiver les professeurs d'esthétique, de blâmer ceux qui jugent avant de critiquer, de pester contre ceux qui ne connaissent rien ni à l'art ni aux beaux-arts, de maudire ceux qui se sont, pour ainsi dire, mépris sur l'esthétique d'Emmanuel Kant et ont confondu la faculté de juger avec un tribunal. Je vais revenir sur ces points dans quelques instants. Malheur, mais après tout, est-ce que c'est vraiment un malheur d'une esthétique, discipline qui sera longtemps exclue jusqu'au XXe siècle des programmes académiques. Mais bonheur également, enfin si on veut, lorsqu'elle entre à la Sorbonne par la grande porte, grâce à Victor Bach, premier titulaire de la chaire d'esthétique et sciences de l'art en 1921. Il faudrait aussi citer d'ailleurs Valentin Feldman, l'élève de Bach, auteur en 1936, et c'est assez remarquable, d'un ouvrage intitulé « L'esthétique française contemporaine », un an après la définition, la seconde définition que donnait le dictionnaire de l'Académie française. Alors, comment Victor Bach s'y est-il pris pour obtenir cette reconnaissance? Eh bien, tel Ulysse, je dirais, il a introduit un cheval de Troie dans l'enceinte universitaire. Ce cheval de Troie, c'est tout simplement la science de l'art. Et Victor Bach, qui était germaniste de haut vol, emploie le terme allemand « Kunstwissenschaft ». C'est important. Et il déclare ceci, « Je crois qu'il est possible d'affirmer que l'esthétique contemporaine a apporté des méthodes et des objets de recherche nouveaux. » À vrai dire, on ne voit pas encore lesquels, mais enfin bon, il dit ça en 1934. Pour les désigner d'un mot, je dirais qu'elle a l'ambition de constituer à côté de l'histoire de l'art une science nouvelle qu'elle a appelée science de l'art, Kunstwissenschaft, et il ajoute art, science. Pour être franc, il parle de méthode, une méthode non. Un objet, oui. Et cet objet, c'est l'art, les beaux-arts, la création artistique. Enfin, du concret, des tableaux, de la musique, des sculptures, de l'architecture, et non plus ce flou idéaliste et encore largement platonicien des belles choses, des belles théories, des belles lettres, etc. Mais cette reconnaissance académique ne garantit pas, en tous les cas, pas plus que par le passé, une longue période uniforme de félicité. Pour quelle raison? Si Baudelaire... Je vais vous dire tout de suite que mon intention initiale était de rendre un hommage à Baudelaire. Vous l'avez peut-être compris, mais vous allez le comprendre encore plus tout à l'heure. Voilà, je mets les choses à l'aise tout de suite. Si Baudelaire dénonce à juste titre les professeurs, comme on l'a dit, qui prétendent juger de la beauté d'une œuvre selon sa capacité à copier fidèlement la nature, car c'est cela que dit Baudelaire dans Les curiosités esthétiques, il sait fort bien, et il le prouve lui-même, va dire magistralement, que l'art demande à être jugé, évalué, critiqué en bien ou en mal, évidemment au risque d'utruisme. Rien n'est plus grave pour l'artiste que l'indifférence, c'est évident. Mais, à mon sens, et là c'est plus Baudelaire qui parle, c'est moi, bon, l'esthétique n'est pas un procureur. Elle n'a pas vocation à rendre un verdict. L'histoire de l'art lui a appris la prudence, la relativité des goûts, les effets pervers de l'esprit du temps, du Zeitgeist. En revanche, ce qui lui importe, c'est que l'art puisse rendre des comptes, qu'il soit reconnu comme justiciable, et cette reconnaissance est déjà un hommage. Le rôle de l'esthétique, plus précisément de la critique esthétique, n'est pas, toujours à mon sens, non plus de contraindre le goût, mais d'éclairer librement le jugement de goût. C'est d'ailleurs la vraie leçon d'Emmanuel Kant, qui est quand même pour quelque chose dans l'histoire de l'esthétique, affirmer avec force la liberté de juger et critiquer, en sachant que l'important, c'est moins de juger que de pouvoir le faire en toute liberté. La critique de la faculté de juger, qu'on étudie souvent dans les classes terminales, je ne sais pas si on l'étudie encore, ça devait être initialement un traité en faveur de la liberté et pas en faveur de l'esthétique. Hommage, donc, je viens de le dire, de l'esthétique à la création artistique, à l'art, mais cet hommage est à haut risque. Car sur le justiciable, c'est-à-dire sur l'art, pèse le soupçon d'un nombre considérable de délits, de crimes commis tout au long de son histoire. C'est imprévenu, incommode. À haut risque aussi, car on ne compte plus les jugements hâtifs, les condamnations prématurées, autant d'erreurs que l'on peut bien qualifier ici de judiciaires. Faut-il rappeler, comme ça en passant, les récriminations qui ont accablé l'Olympiade Manet, pourtant défendu âprement par Zola, puis bien sûr par Baudelaire, encore lui, ou bien les vitupérations contre l'homme à la pipe de Courbet, exclu du salon officiel, ce qui déclenche illico et des rechefs, lire toujours de Baudelaire, encore lui. L'esthétique, je vais le dire comme ça, est à la peine lorsqu'elle veut appréhender le suspect, cet art, qui revendique depuis plusieurs décennies déjà son indéfinition. C'est un filou qui glisse de façon diabolique à travers les mailles du filet tendu par les historiens de l'art, les critiques d'art, les sociologues de l'art et bien évidemment les professeurs d'esthétique. Aucun des dispositifs de surveillance conceptuelle et philosophique qui jalonnent l'histoire de l'art ne parvient à mettre un terme à sa cavale. Je vais vous le prouver. Croit-on avoir esquissé sa silhouette ? Le bougre se dérobe. Il change même d'identité. Il s'octroie un nouveau passeport pour investir des territoires inconnus. Il est capable de se fondre dans la masse des choses quotidiennes. Il joue parfois de la banalité et de l'insignifiance. Il va jusqu'à fréquenter les rayons du bazar de l'hôtel de ville. On croyait l'avoir piégé, enfermé entre quatre murs, pendu, ou plus exactement suspendu, au cimes des musées. On le retrouve dans la rue, sur les murs, sur les trottoirs. Cet SDF, cet art des rues, ce street art, ne le reste pas longtemps, d'ailleurs. Sorti des grottes de la préhistoire, il rejoint aujourd'hui les espaces muséaux les plus consacrés. Déjà, Platon, vieux Platon, avait perçu la perversité maligne de ce faussaire. Il inciterait, selon lui, la jeunesse aux vices les plus vils, déploierait une énergie corrosive et sensuelle aux fins de débauche. C'est ainsi qu'après l'avoir encensé, le philosophe athénien, premier procureur de l'art, décide de le chasser hors de la cité. Pourquoi cette ingratitude, cet ostracisme, ce bannissement ? Je risque une première hypothèse. Platon s'aperçoit que sous la face solaire, jupitérienne du beau, se cache la face saturnienne et ténébreuse du désir. Grosse menace pour l'équilibre politique et moral de la cité. En faisant cette allusion, je ne peux pas ne pas penser d'ailleurs au vers de Baudelaire, « Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère ». Je risque une seconde hypothèse qui n'est pas incompatible avec celle que je viens d'évoquer. Platon, le philosophe, est jaloux, secrètement, de celui qui, artiste, est capable, telle sorte de magicien, de saisir d'un seul geste, d'une seule couleur, d'un simple ornement, d'un simple accord musical, d'un petit coup de rifloir ou d'ébauchoir, ce que le discours et les concepts ne parviennent jamais vraiment à exprimer. Et ce ressentiment perdure, je le crains, fait les philosophes de l'art, fait les critiques d'art, et j'ose l'avouer, fait certains esthéticiens actuels. C'est un fait que notre art est plutôt roué. Toute son histoire accrédite la méfiance de Platon. Véritable caméléon de l'esprit du temps, il est capable de singer le réel, de devenir hyper réel, voire hyper réaliste. Virtuose de la mimésis, véritable virtuose de la mimésis, il s'est fait longtemps historien servile vis-à-vis du pouvoir. Il a su flatter de façon obséquieuse l'amour-propre des princes. Ou bien il s'est fait aussi le fossoyeur de nos illusions, le peintre baroque des vanités. Il se complaît aussi parfois dans la déféance et le stupre, érotisant les figures d'Eros, ou bien exhibant sans complexe un grand masturbateur surréaliste, parfois plus licencieux encore. Ce ne sont là que des exemples encore bien pudiques. L'esthétique sait qu'elle a affaire à un voyou, tantôt séducteur, tantôt dealer dispendieux de paradis artificiels, voire mangeur d'opium, aurait dit Baudelaire encore. Tantôt encore, le rusé va jusqu'à gommer de sa fiche d'état civil tout signe de reconnaissance. Il se peint blanc sur blanc, ou bien noir, tout noir, outre noir. Et qu'on ne s'avise pas de le mettre en garde à vue. La plupart des tentatives ont échoué, piteusement. Les conservatoires, parfois si bien nommés, les traditionnalistes, les passéistes, les nostalgiques, ont toujours, en se frottant à lui, gagné en ridicule. Je ne vais pas parler des académies.
Pas encore.
Maintes fois menacé d'identification et de mise en examen, notre loustique, c'est un terme de Francis Picabien, échappe à la carte d'identité, il change de visage et de forme, il se défait, s'abstrait du réel. Habile cavalier, il monte alors sur ses grands chevaux, bleus comme il se doit, et il s'évanouit non pas dans la nature, non pas tant dans la nature que de la nature. On sait capable de fréquenter des lieux malfamés, de trouver refuge dans un lupanar fantasmatique du côté de Barcelone, de se planquer, travesti en Pierrot, dans un cabaret berlinois ou, pire encore, dans un urinoir. Pourchassé, persécuté un temps, accusé de dévénérescence et de décadence, il crie, se rebelle, s'invite, fomente la révolution et ressurgit chaque fois, plus vaillant, des cendres de l'histoire. On a cessé de le dire mort et il n'a cessé de ressusciter. Son cadavre se porte à merveille. Provocateur de scandale, il l'a toujours été. Qu'on se souvienne de la radicalité et de la sévérité de certains jugements fameux sur les chefs-d'œuvre désormais incontestés. Rappelons, puisque l'indignation ne date pas d'aujourd'hui, celle bien connue de Pierre Larrétin à propos du jugement dernier de la Sixtine. Je le cite, « Même un tenancier de bordel fermerait les yeux pour ne pas voir cet obscène établissement de bain. » Pas très flatteur. Et celle tout aussi célèbre, évidemment, qu'on aime parfois citer, de Nicolas Poussin sur le Caravage. « Cet homme est venu pour tuer la peinture. » Pas très sympathique non plus. Depuis quelques décennies, ce phénix se veut contemporain. Et il revendique très fortement cette contemporanéité. Il multiplie les exclandres, pour se faire remarquer, bien entendu. Exhibitionniste à outrance, il affiche très souvent sa prédilection pour la torture des corps, la mort, la saleté, le sang, les liquides corporels, la violence, le sacré, le sexe, et le scatologique. On objectera à nouveau, oui, mais enfin, attendez, ça, il l'a toujours fait. Oui, mais on voit aussi la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que ces thèmes sont abondamment, astucieusement exploités. On sait aussi qu'ils, trop souvent, ils jouent sur le spectaculaire, sur le pathos, pour choquer, pour provoquer, au détriment de la réflexion, de l'analyse, de la critique, qui arrive parfois, mais enfin bien souvent trop tard, après. Et puis, pour dire la vérité, c'est aussi souvent pour remplir les tiroirs-caisses des grands managers de l'art contemporain. La situation actuelle est donc totalement inversée par rapport à celle du passé. Pour la résumer, naguère, c'était l'œuvre qui faisait scandale. Désormais, c'est le scandale qui fait l'œuvre. Est-ce alors la déroute de l'esthétique ? La pauvre. Ça s'ajoute, je dirais, en tous les cas, à ses infortunes passées. Et aussi aux infortunes de l'esthéticien à qui il arrive, par exemple, après une conférence, de devoir répondre à des sommations du genre « Dites-moi, cher monsieur, qu'avez-vous à nous dire de cette sculpture réaliste en grandeur nature d'un malheureux pape écrasé par une météorite ?» Ou bien « Trouvez-vous normal qu'on exhibe une photographie du Christ en croix immergé dans un verre rempli d'urine et de sang ?» Ou alors, troisième exemple, il y en aurait, on peut finir. Que pensez-vous de l'exhibition au musée d'Orsay, on n'est pas très loin, d'une performeuse luxembourgeoise, nue et cuisse écartée, imitant dans ses moindres détails l'origine du monde de Gustave Courbet. Il y a des moments difficiles dans la vie de l'esthéticien. Hein, ce sont des choses vues et des choses vécues. Alors, il y a plusieurs réponses possible, simplement, si l'esthéticien doit répondre tout de suite, il faut qu'elle lui vienne à l'esprit spontanément, sinon il passe pour un imbécile. Alors, au néo-inquisiteur qui, à propos des deux premiers exemples, qui touchent évidemment au sacré et à la religion, crierait au blasphème, on pourrait par exemple opposer saint Matthieu. Alors, je cite saint Matthieu, « Voilà pourquoi je vous le déclare, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. » Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, ben, ça lui sera pardonné. Ouf, bon. Ou alors, plus fort, enfin plus fort, non. Non, saint Matthieu, non, quand même pas. Mais Luther, qui dit pour Dieu, le juron d'un impie peut lui être plus agréable que l'alléluia d'un dévot. Pas mal. Hein, voilà. Ou encore, alors là, on choisit un scientiste positiviste et laïque comme Hippolyte Taine. Le blasphème des grands esprits est plus agréable à Dieu que la prière intéressée de l'homme vulgaire. J'ai une tendance à la préférer. Hein, je la trouve bien, celle-là. Quant à la performance du tableau de Courbet, alors, vous allez me dire, là, qu'est-ce qu'il va dire l'esthéticien ? Ben, l'esthéticien, il va dire, mais il ne condamne pas. Non, il ne condamne pas, mais il dit que c'est tout simplement un contresens artistique et esthétique. Les historiens de l'art et les romanciers s'évertuent, comme vous le savez, à identifier la femme représentée. Est-ce que c'est Johanna Iferman, le modèle préféré de Courbet, ou bien Jeanne de Tourbet, la maîtresse du premier acquéreur de l'origine du monde, c'est Khalil Bey. Alors, pour l'esthéticien, de telles questions ne se posent pas. Une peinture de femme, un modèle peint n'est pas une femme. C'est une représentation. J'ai l'impression de dire des banalités. C'est une représentation non pas de la femme, mais dont l'artiste, en l'occurrence Courbet, voit la femme. Une certaine femme. On pourrait dire, pour aller vite, le tableau, c'est Courbet. Bon, c'est comme Olympia, c'est Manet. Le peintre se peint soi-même. Ça remonte loin, cette affaire. Hein. C'est Combe l'Ancien qui l'a dit. Enfin, certains disent que ce n'est pas Combe l'Ancien, c'est Brunelleschi. Je n'ai pas tranché, j'en sais rien. C'est ou l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, d'ailleurs. Mettre des représentations en parallèle avec l'exhibition racoleuse d'un corps nu bien réel n'a guère de sens, en tous les cas, pour un esthéticien, ça n'a pas de sens. Et je dirais qu'en se soumettant à l'impératif qui devient un impératif quasiment catégorique d'un certain art contemporain, c'est-à-dire soit transgressif, on banalise évidemment la transgression. De ce fait, on l'annule. C'est-à-dire s'il n'y avait plus de tabou à transgresser, les artistes n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte de leur atelier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe, à travers quelques exemples, il y en aurait évidemment beaucoup plus, c'est qu'il existe un art, il y en a toujours eu, mais peut-être là, survolté, surexcité, imprévisible, qui ne représente qu'une partie seulement de l'ensemble de la création artistique actuelle, simplement son impact médiatique, relancé comme chacun sait aujourd'hui par les réseaux sociaux, occupe un espace culturel considérable. Parfois, il s'agit tout simplement d'un art kitsch. Il y a un retour en force du kitsch. Aussi kitsch qu'un énorme bouquet de tulipes multicolores en métal, un art de plus en plus kitschérisé, un art snob, je dirais objet d'une idolâtrie un peu niaise, réduit à l'état de babiole de luxe pour richissime spéculateur international, parfois d'ailleurs tout simplement national. Je suis tombé sur une phrase de Baudelaire, vous allez me dire décidément, mais il fallait qu'il nous fasse une conférence sur Baudelaire. Je suis tombé sur cette phrase qui me semble convenir parfaitement à notre propos. Notre public. Alors il dit ça, attendez, en 1867, je crois. Notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, signe des petites âmes, veut être étonné par des moyens étrangers à l'art. Et ces artistes obéissants se conforment à son goût. Ils veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent, incapables de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. Bien. Question. Que vient faire l'esthétique dans cette galère? Je vous avoue que très souvent, elle trouve son bonheur à se faire l'avocate d'un art en apparence le plus dévoyé, avocate lucide et critique, enfin elle essaye. Avocate d'un monstre de duplicité, de plasticité, un scélérat qui se nourrit, pour faire formule, je dirais, aussi bien du sublime que de l'infâme, du noble que de l'ignoble. Ça sonne bien. Pourquoi ça? Probablement parce que cette esthétique se souvient de ses propres origines. Échapper à la tyrannie de la raison, à l'absolutisme de la rationalité, afin de promouvoir la sensibilité, l'intuition, l'affect, les passions contre l'ordre imposé. Et c'est vrai que, aux origines, en plein milieu de l'absolutisme, du règne de l'absolutisme, au XVIIIe siècle, l'ordre s'imposait, moralement, philosophiquement, métaphysiquement, religieusement, etc. etc., etc. Bon. Donc cette esthétique est par essence, je dirais, à son tour transgressive. Elle s'efforce d'être vigilante devant les résurgences d'intolérance, de racisme, de xénophobie, de fanatisme, de crispation religieuse et éthique, voire ethnique, de retour à l'ordre moral, à la bien-pensance, à la censure, dont vous dire qu'aujourd'hui, elle a du boulot. Par exemple, je ne suis pas le seul ici, certainement, à m'inquiéter du retour possible de l'enfer dans les sous-sols des musées où s'entasseraient, soustraits aux yeux du public, les œuvres de Gauguin, de Balthus, de Picasso, des Gonfil, etc. On y va. Je ne suis pas seul non plus, j'espère, à trouver sidérante la censure de Carmen. C'est un côté un petit peu cocasse, cette histoire. Mais enfin, une censure qui frappe l'opéra de Bizet, interdit en Australie par une campagne anti-tabac. En Italie, on condamne la cigarière à assassiner Don José. Enfin, bon, après tout, pourquoi pas, enfin, bon, on peut aussi faire de l'esthétique du loufoque. Hein, bon. Pourquoi pas? Pour en revenir à la transgression, l'esthéticien se dit parfois, mais alors peut-être à tort, que, en fait, Et comme une modulation à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, tous les artistes les plus décriés selon l'esprit du temps exposent au public, à leurs risques et périls, leur propre manière d'interroger le monde, le corps, la sexualité, l'intimité, la souffrance psychique et physique, le rapport à l'autre. À juste titre, on peut voir, ou il faut voir peut-être dans cette audace, dans cette volonté d'instauration, j'emprunte le terme à Étienne Souriau, le rejet des contraintes, celui du formatage social, du politiquement et idéologiquement correct, voire l'exécration des limites et des interdits imposés par la vie quotidienne et vécus comme des oppressions. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que les pratiques artistiques, reconnues ou contestées ou contestables, joueraient ensemble le rôle de révélateur, de sismographe, de miroir grossissant ou de plaque sensible, reflétant ou enregistrant les dysfonctionnements de la société actuelle. Ça tient, pour moi, ça tient la rampe. Bon. Mais est-ce que l'esthéticien doit pour autant être laxiste et inconsidérément tolérant, c'est-à-dire prêt à accepter tout et n'importe quoi? Non. Simplement, il se refuse à confondre jugement de goût et jugement esthétique. J'espère qu'il n'y a pas de kantien puriste dans l'assistance, sinon gare à la sortie. Déjà, La Rochefoucauld, en 1664, qui ne disposait pas encore du terme esthétique, notait cette distinction. Il disait : il y a une différence entre le goût qui nous porte vers les choses et le goût qui nous en fait connaître et discerner les qualités en s'attachant aux règles. C'est ça que j'appelle la distinction entre jugement de goût et jugement esthétique. Et on sait très bien, tout le monde le sait, qu'on peut ne pas aimer une œuvre et lui reconnaître des qualités esthétiques. Inversement, on peut aimer des œuvres dont la valeur esthétique est médiocre. On s'est tous, peut-être, à un moment donné, fait piéger par ce genre d'inclination. On aime des œuvres, mais là, on sait très bien que... Bon. La querelle qui a été déclenchée il y a 5 ans, qui opposait les compositeurs fidèles à la musique tonale, vous avez vu... Ah, il n'est plus là. Mais vous avez tous... On avait entendu parler. Les compositeurs fidèles à la musique tonale et les atonalistes, je dirais, est un parfait exemple, à mon sens, de la confusion tout à fait regrettable, dommageable, entre jugement de goût et jugement esthétique. Je fais allusion au cours donné par le pianiste et compositeur Jérôme Ducrot au Collège de France. Il a fait une conférence très, très humoristique. En fait, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur Internet. Mais je dirais ceci, c'est-à-dire qu'un musicien n'aime pas la musique contemporaine, alors c'est parfaitement son droit, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Qu'il en fasse une critique... avec une ironie de bon aloi d'ailleurs, poussée jusqu'à la caricature, pourquoi pas. Mais l'argument, je cite, selon lequel la tonalité touche au fondement de la perception, ça, pas seulement pour un esthéticien, mais pour beaucoup de personnes, pour moi, c'est une ineptie. C'est-à-dire, comment peut-on, à notre époque, se demander encore si la perception relève d'un inéisme anthropologique ou si c'est une variable culturelle, en l'occurrence occidentale. Mais évidemment, c'est la seconde, ce n'est pas la première. Hein ? Bien. Et la meilleure réponse, elle est peut-être celle d'Edgar Varèse. Je n'ai pas assisté au cours de Ducrot, mais si j'avais assisté, j'aurais bien voulu qu'on me souffle cette réflexion d'Edgar Varèse après le scandale, mais le scandale fou, déclenché en 1954 au Théâtre des Champs-Élysées, lorsque fut exécuté Désert. C'est une œuvre assez troublante, hein, assez étonnante. On est dans le désert, quand on l'entend. Bon, enfin, moi, peut-être pas tout le monde. Et Varèse dit ceci, et c'est une bonne réponse peut-être à ce que je viens de vous dire à propos du cours de Jérôme Ducrot. Je vis dans la ville, j'aime l'atmosphère de la ville, j'aime tout ce que la ville contient. J'ai vu des nègres de l'Afrique équatoriale venus chez moi, qui ne connaissaient rien de notre civilisation industrielle. Des Indiens, des Asiatiques, et tous étaient plus sensibles à ma musique que des Blancs qui ont toujours vécu dans la ville, qui ont été à l'école, qui ont été conditionnés. On a bien compris, à travers les quelques références rapides à l'heure actuelle que j'ai fait tout à l'heure, que l'art a perdu une grande part, comme on disait au temps de Goethe, de sa belle âme. Il est dépouillé de son costume d'harmonie. Il est tenté, on l'a vu maintes fois, de braver les interdits, de défier toutes les censures. Déjà bizarre à l'origine, on a envie de dire qu'il devient de plus en plus étrange. Et encore une fois, je reprends des termes, évidemment, chers à Baudelaire. Mais c'est faux. En réalité, il suffit de considérer l'histoire de l'art et l'histoire des arts pour voir que, au bout du compte, cet art se présente tel qu'il a toujours été, sauvage, indomptable et donc imprévisible. Excusez-moi, je n'ai pas arrêté de dire qu'il fallait absolument stopper son iPhone. Et le traître arrive, je reprends. L'art a toujours été sauvage, indomptable et imprévisible. Simplement, il s'est affranchi, il a mis le temps, peu à peu, de tout idéalisme, de l'idéal ancien d'harmonie, de la forme accomplie, consolatrice, réconciliée avec le monde et avec la société. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y revienne pas de temps en temps, heureusement. Mais je dirais qu'en somme, il a cessé de mentir. Baudelaire, encore, avait parfaitement identifié ce que le philosophe Théodore Adorno nomme la crise de l'apparence, c'est-à-dire ce moment où, je cite Adorno, l'art cesse d'être prescrit comme piqûre de vitamine pour homme d'affaires fatigué. C'est-à-dire l'instant où l'art moderne manifeste, dit-il aussi, la volonté de se débarrasser du caractère d'apparence comme le font les animaux de leur ramure. Dans son souci d'enregistrer et d'exprimer les désordres du monde, une partie de l'art, labellisé contemporain, exacerbe ce processus. Il y aurait là de quoi déstabiliser l'esthétique et l'esthéticien, de dérouter la théorie esthétique, toujours surprise par les ruptures et les chocs intempestifs de la création artistique. Malheur à elle, qui arrive évidemment toujours trop tard, après l'accomplissement, je dirais, du forfait, si vous me permettez, de rester dans le registre des précédentes métaphores judiciaires. Mais cette esthétique, et j'en termine par là, elle se console de deux façons. D'une part, elle a le souci de prêter une extrême attention aux œuvres peut-être plutôt qu'aux théories, vous voyez, afin de percevoir, et j'emprunte cette formule à Jean Starobinski, afin de percevoir tous les rapports que les œuvres établissent avec le monde, avec l'histoire, avec l'activité d'une époque, et puis moi j'ajouterais avec la société. D'autre part, et c'est là qu'elle a une grande tâche, que les divers enseignants, professeurs d'esthétique ou d'art plastique, comme on dit maintenant, doivent avoir présent à l'esprit, elle doit s'efforcer de répondre aux demandes d'interprétation et de sens que suscitent des propositions et des réalisations artistiques qui parfois enthousiasment, enchantent, émerveillent, passionnent, embrasent et d'autres fois choquent, intrigue, agace, horripile, exaspère. Igor Stravinsky disait de façon plaisante que l'art est un véhicule qui ne connaît pas la marche arrière. C'est une amusante variation métaphorique qui rappelle la fameuse déploration de Voltaire que vous connaissez tous. Le goût se perd, on est entouré de nouveautés qui sont rapidement effacées les unes par les autres. Je dirais enfin que cette créativité, ce souffle incessant de la création artistique explique pourquoi l'esthétique est presque toujours, pas toujours donc, tenter de reconnaître à l'art, à celui que j'ai qualifié de voyou, le droit à la présomption d'innocence. Car il se pourrait, à bien y regarder, que ce soit lui qui nous juge et non pas l'inverse. Et l'esthétique adopte volontiers, et l'esthéticien aussi, pour devise le mot de Constantin Brancusi, les choses de l'art sont les miroirs dans lesquels chacun voit ce qui lui ressemble. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre attention.